Pour terminer l'anniversaire Ixina en beauté, cette semaine, tentez de gagner l'un des 25 bons d'achat de 3000 euros sur votre nouvelle cuisine Ixina. Et oui, c'est notre anniversaire, mais les cadeaux, c'est pour vous. Ixina, oui à vos rêves. Tirage au sort réalisé sur les commandes du 21 au 30 novembre. Voir conditions sur ixina.fr.
La science CQFD, Natacha Triou.
En France, depuis plus d'un an, une expérimentation pilotée par l'Agence du médicament est en cours. 3000 patients testent le cannabis thérapeutique. Quel est l'avenir du chanvre médicinal ? Aujourd'hui, le cannabis reste illégal, même à visée médicale. Mais force est de constater que 12 millions de Français souffrent de douleurs chroniques, que les centres de douleurs sont saturés et qu'en 30 ans, aucun nouvel antalgique n'a vu le jour. Pour élargir l'arsenal thérapeutique et pour soulager les souffrances des patients, le cannabis a-t-il sa place dans les armoires à pharmacie ? Cannabis médical, et si on se plantait ? Marie-Geoffrey Roustide, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et chercheuse au Centre d'études des mouvements sociaux à l'INSERM et vous coordonnez le programme Sciences sociales, drogue et société à l'EHESS. Avec nous, Giovanni Marsicano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'équipe endocannabinoïde et neuroadaptation au neurocentre Magendie. Et bonjour, Nicolas Autier.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de médecine de la douleur au CHU de Clermont-Ferrand et président du comité scientifique de l'ANSM sur l'expérimentation du cannabis à usage médical en France. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Alors comme chaque jour, cette émission peut se suivre sur les ondes, mais aussi sur Twitter, sur notre fil @sciencesqfd. Alors jusqu'à 17h, nous parlerons donc de ce sujet idéologiquement sensible. Il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de cette plante, mais bien de faire le point sur l'état de la recherche, sur ses effets bénéfiques et sur ses effets néfastes. Le cannabis peut-il être considéré comme un médicament ? La question se pose depuis un certain temps. Pour notre archive du jour, on retourne en 1997 et on traverse l'Atlantique.
Caché pas très loin de son lit, les quelques plants de marijuana que cultive en toute légalité Martina. Cette étudiante de 21 ans souffre d'une leucémie. Chimiothérapie, séjour prolongé à l'hôpital, puis un jour devant ses souffrances, une infirmière lui propose d'essayer la marijuana. La drogue ne la soigne pas, mais soulage rapidement la douleur.
Je fume un joint une fois par jour. La marijuana est vitale pour moi. Ça m'aide à tenir chaque jour. Sans marijuana, j'aurais des nausées toute la journée. Je ne pourrais rien manger. Ça m'aide à résister, à garder l'espoir.
Le vote californien pour l'usage de la marijuana à des fins médicales a réjoui San Francisco. Dans cette ville aux mœurs ultra-libérales, tout ou presque y est permis, des clubs de cannabis ont déjà fleuri il y a quelques mois. Ici, les malades comme Martina, atteints d'un cancer ou du sida, peuvent acheter et consommer de la marijuana.
We have 250 doctors.
À San Francisco, 250 docteurs prescrivent de la marijuana à leurs patients gravement malades. Ils ignorent les directives de Washington et nous allons les protéger en préservant le secret médical.
Le gouvernement fédéral s'oppose aujourd'hui aux médecins qui prescrivent de la marijuana. Sa justification, une lutte impitoyable contre la drogue et ses trafiquants. Il est donc prêt à sanctionner les médecins de Californie comme le docteur Cohen, qui a déjà recommandé la marijuana à des patients.
Il n'y a pas d'accoutumance pour ceux qui souffrent d'une maladie grave et qui utilisent la marijuana dans les 3-4 derniers mois de leur vie. Et quelle accoutumance si leurs conditions de vie sont meilleures ?
Jusqu'à présent, aucun médecin n'a été sanctionné pour avoir prescrit ou recommandé de la marijuana. Mais l'administration Clinton agite toujours cette menace. Elle entend, dit-elle, protéger les jeunes d'une drogue qui deviendrait trop vite un médicament comme un autre.
Un médicament comme un autre. Nicolas Autier, une réaction à cette archive ?
Ben oui, c'est la relance du cannabis thérapeutique, comme on dit médical maintenant. C'était après des dizaines d'années de répression unique autour de cette plante. La fin des années 90, c'était le retour de cette plante, du cannabis, et notamment d'une de ses substances, le THC, dans une finalité thérapeutique, l'État de Californie, qui ensuite a été suivi par des pays qui l'ont suivi. Donc c'était plutôt, c'est une bonne chose parce qu'en fait là, on s'est appuyé cette fois-ci non pas sur de l'empirisme, mais sur des données, on a commencé de s'appuyer sur des données scientifiques qu'on avait collectées depuis une vingtaine d'années.
Giovanni Marsicano, une réaction également à ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, oui, c'était très, très, très intéressant. Penser que c'est déjà 25 ans que c'est passé, c'est un peu dur parce que ça veut dire que les chemins ont été plutôt longs pour arriver à faire de l'expérimentation vraie et claire. Une chose que je voulais dire, c'est sur qui sortait de ces reportages, c'est le fait que en effet, on va en parler plus tard, mais souvent il y a des cas spécifiques où il y a des résultats spectaculaires avec la plante. Et ça, c'est et par contre, quand on fait après des tests cliniques, on trouve qu'il y a des gens qui ne répondent pas ou même ils ont l'effet opposé. Et ça, peut-être, c'est dû à des effets multiples qu'on peut avoir dans le cerveau et dans le corps des composants de la plante.
On va revenir un peu plus loin dans l'émission, justement, sur ces tests cliniques et sur ces résultats. Je voudrais aussi entendre votre réaction à l'archive du jour, Marie-Geoffrey Roustide.
Cette archive, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle incarne le paradoxe de l'Amérique, en fait, des États-Unis, c'est-à-dire à la fois un pays très conservateur qui incarne la guerre à la drogue, hein. C'est ce pays qui a inventé la guerre à la drogue et donc on l'entend dans le reportage. Voilà, il fait protéger les jeunes des drogues et en même temps, certains États comme la Californie, voilà, qui sont très en avance, très progressistes et qui vont être à l'écoute de la parole des patients et donc légaliser le cannabis à des fins médicales et ensuite à des fins dites récréatives. Et le deuxième point qui est très important, c'est aussi la souffrance des patients. Et donc, on en reparlera tout à l'heure, mais dans le cadre de cette expérimentation en France, les membres du premier groupe, en tout cas qui avaient entendu, du premier groupe de la NSM, qui avait donné lieu à la possibilité donc de mettre en place le cannabis thérapeutique, on a été très sensible à cette souffrance des patients qui étaient dans une impasse et donc ça on l'entend également dans cette archive.
Avant de parler justement de cette expérimentation qui sera au cœur de notre émission, je veux bien qu'on plante un peu le décor, qu'on fasse un petit point historique. Marie-Geoffrey Roustide, hein, le cannabis médical dans l'histoire, ça trouve des racines très anciennes, sans faire de mauvais jeu de mots.
Oui, c'est effectivement une plante, hein, comme l'opium, comme beaucoup d'autres, hein, qui a été utilisée dans la médecine, donc pour soulager des douleurs, mais qui a été aussi utilisé dans le cadre de la religion pour accéder à la transe. Et puis également, et ça on y reviendra tout à l'heure, mais il y a la question du cannabis médical, mais même dans un cadre dit récréatif, il y a des usages récréatifs, enfin thérapeutiques, pardon, de cette plante qui ont toujours existé pour soulager par exemple l'anxiété. Donc oui, en fait, cette histoire du cannabis médical, elle est ancienne, mais elle a été interrompue à certains moments par la logique prohibitionniste, en fait, qui a voulu contrôler certains groupes de population. Donc soit des jeunes en France avec l'histoire de mai 68 et le vote de la loi du 31 décembre 1970, ou soit aux États-Unis les groupes afro-américains, par exemple. Donc en fait, cette question du cannabis, elle est vraiment, comme vous le disiez, très sensible parce que c'est très compliqué d'avoir un débat apaisé sur cette question, même quand on parle de cannabis médical.
En tout cas, ce qu'on observe dans l'histoire des sciences, hein, c'est cette frontière assez floue qui existe entre drogue et médicaments.
Tout à fait. Et donc, c'est le cas pour le cannabis, mais c'est le cas pour l'opium également, hein, pour tout un tas de substances.
Nicolas Autier ?
Oui, on dit que c'est la dose qui fait le poison. Mais il y a un peu de ça quand même. Alors, c'est vrai qu'avant la prohibition, après 1937, etc., c'est vrai que, est-ce qu'on a perdu beaucoup par rapport au cannabis ou on a pris du retard, ça c'est sûr, mais ce qui était fait avec le cannabis à visée thérapeutique n'était pas non plus toujours terrible, il faut le dire, c'était très empirique, on a voulu soigner plein de choses, on a vu un peu ça comme une panacée. Ce n'est pas une panacée, le cannabis médical, malheureusement, mais ça n'en est pas une. Alors, mais en revanche, on a pris du retard, parce qu'évidemment, on a fait du 100% de prohibition, et donc on a interdit, y compris la recherche, c'est-à-dire qu'on ne pouvait rien faire à partir de cette plante. Et puis la morphine a pris le dessus, alors que la morphine n'est pas moins dangereuse, elle peut même être plus dangereuse, puisqu'on peut faire des overdoses, et on peut décéder d'une surdose en morphine, ce qui n'est pas le cas avec le cannabis. Donc on a pris ce retard, mais moi je trouve vraiment ce qui a été intéressant, c'est que depuis les années 70-80, on s'est remis à faire de la recherche, On a essayé de trouver un rationnel à l'utilisation de ce cannabis, à comprendre quelles substances étaient intéressantes, parce que finalement, on dit le cannabis souvent, mais en fait, à partir de cette plante, on peut décliner plusieurs types de médicaments, de compositions différentes, qui vont s'adresser à des pathologies différentes. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, ça s'adresse à des pathologies qui sont sévères, chroniques et souvent réfractaires aux traitements disponibles. Donc on n'est pas en train de parler de prescription à des millions de Français de produits à base de cannabis, c'est pas du tout le cas.
Ah, vous dites, hein, on a pris du retard, hein. La législation mondiale ne cesse d'évoluer sur ce sujet, le cannabis fait lentement son retour dans les armoires à pharmacie. Marie-Geoffrey Roustide, hein, on peut peut-être faire un petit tour du monde, hein, de la Marie-Jeanne thérapeutique.
Oui, alors il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, hein. Par exemple c'est le cas d'Israël, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas du Canada. Moi je reviens de Montréal, justement j'étais à Montréal la semaine dernière, et donc eux, ils sont très en avance sur la question du cannabis médical, mais ils parlent maintenant de décriminaliser même l'usage de toutes les drogues, à la fois à des fins thérapeutiques, mais également à des fins récréatives. Parce qu'en fait, ce qui est très important dans le cadre du cannabis médical, c'est l'encadrement, en fait. Donner la possibilité à des personnes de savoir ce qu'elles vont consommer. Et le problème auquel on est confronté en France par rapport à d'autres pays qui ont autorisé le cannabis médical, c'est qu'en France, on a aujourd'hui beaucoup de malades qui ont des pathologies, effectivement, avec des souffrances qui sont réfractaires à d'autres médicaments, qui vont s'approvisionner sur le marché illégal, qui vont consommer un cannabis de mauvaise qualité et qui ne va pas leur permettre, en plus, de soulager leurs souffrances et qui vont être dans l'illégalité.
Alors, qu'est-ce qu'on observe, hein, plus précisément, dans les pays, justement, où il y a l'expérience du cannabis médical? Qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, par exemple?
Alors, nous, ce qu'on observe, et puis ce qu'on a entendu, hein, quand on a auditionné les représentants de différents pays dans le cadre de l'expérimentation mise en place par l'ANSM, c'est qu'effectivement, il y avait des avancées très importantes dans le soulagement, par exemple, des douleurs pour certaines pathologies, qui ont été listées tout à l'heure par Nicolas Outier. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu, avec le cannabis médical, une augmentation de l'usage récréatif, c'est-à-dire que tout le monde ne s'est pas mis à consommer du cannabis dans un autre cadre, parce que en fait, la réglementation a fait en sorte que cet usage puisse être encadré. Donc en fait, ce qui bloque souvent le débat sur le cannabis médical, et c'est le cas, hein, en particulier en France, c'est qu'il y a cette crainte qu'ensuite ça soit une passerelle pour ouvrir le débat sur la légalisation du cannabis à des fins récréatives, et puis que tout d'un coup, l'accessibilité du cannabis soit perçue comme plus importante et qu'on ait des augmentations de la consommation importantes. Donc j'ai vu, ça c'est la première chose, donc un encadrement très sérieux et effectivement une efficacité de ce produit dans certaines pathologies. Mais un autre élément beaucoup plus récent, c'est que des pays, par exemple, comme le Canada, utilisent aujourd'hui le cannabis pour lutter contre la crise des opioïdes. Parce qu'il faut avoir en tête que, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, il y a des centaines de milliers de morts. L'année dernière, aux États-Unis, 100 000 morts en raison de la crise des overdoses opioïdes. Et aujourd'hui, il y a des résultats très intéressants qui ont été présentés par des équipes de l'Université de British Columbia au Canada, qui montre que pour certains patients dépendants aux médicaments opioïdes, l'utilisation de cannabis va permettre de réduire cette utilisation des opioïdes et donc d'avoir un effet sur
oui,
les overdoses.
Pas d'overdose avec du THC. Alors pour compléter, hein, ce petit tour du monde, hein, certains pays ont totalement légalisé l'usage du cannabis médical et récréatif, le Canada, l'Uruguay. Dans d'autres pays, un seul usage médical est autorisé, comme en Argentine, l'Australie ou l'Autriche. C'est quoi la différence, Nicolas Autier, entre cannabis médical et cannabis récréatif? Qu'est-ce qui distingue les deux?
Ce sont des finalités différentes. On a au départ une même plante, enfin des variétés différentes d'une même plante qui s'appelle le cannabis ou le chanvre. Finalement, c'est la même chose. Et puis, dans ces plantes, il y a des substances actives. Il y a des dizaines et des centaines de substances actives, deux qu'on connaît mieux que les autres. Le THC, celle qui est la plus psychoactive, qui fait tourner la tête, que l'on fume dans des joints, enfin pour ceux qui la consomment en tout cas. Et puis le CBD, qu'on connaît un peu de façon un peu plus récente, le cannabidiol. Ce sont les deux substances majoritaires et qu'on connaît le mieux. Et en fait, en fonction de l'usage et de la finalité d'usage, ce que l'on veut faire avec cette plante, évidemment, on peut soit se faire tourner la tête, et c'est plutôt festif, récréatif, mais pas toujours, ça permet de désinhiber, ça permet plein de choses, d'avoir des relations sociales plus faciles, enfin, comme l'alcool, hein, c'est pas très différent finalement. Soit on l'utilise pour soulager un symptôme, une souffrance. Et ça, c'est la finalité thérapeutique. Mais quand on parle de médical, on va plus loin que la finalité thérapeutique. C'est-à-dire qu'on ne dit pas au patient, vous avez le droit de consommer du cannabis, d'en faire pousser, d'en acheter, d'en consommer, on ne vous dira rien. On vous dit, si vous êtes malade et que vous avez une souffrance, que vous consommiez ou pas du cannabis, peu importe. Si cette souffrance n'est pas soulagée par les médicaments actuellement disponibles, on va pouvoir vous proposer un nouveau médicament et peut-être que ce médicament viendra apporter un plus thérapeutique. Peut-être que chez certains, ça viendra vous soulager. On propose du médicament prescrit sur ordonnance, dispensé en pharmacie. Donc c'est très très loin d'un joint thérapeutique. C'est très très loin d'une finalité festive ou récréative. Certains peuvent se l'imaginer.
Oui, c'est ça, c'est du standard pharmaceutique.
Oui, oui, bien sûr. Les patients, ils n'attendent pas qu'on leur dise « faites ce que vous voulez, vous avez le droit ». On n'est pas en train de parler de cannabis médical pour juste légaliser une pratique. Ça ne s'adresse pas uniquement à des fumeurs de cannabis médical. Ça s'adresse à des gens qui ont une maladie, des douleurs neuropathiques, des soins palliatifs, du cancer. Et la majorité d'entre eux ne consomment pas de cannabis. Et dans l'expérimentation qui actuellement est en cours, la majorité des patients qui ont été inclus ne consomment pas de cannabis.
Et bien justement, cette expérimentation, on en parle.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
16h16 sur France Culture. Est-ce que le cannabis peut-il être considéré comme un médicament? C'est la question que nous posons à nos trois invités du jour, Giovanni Marsicano, Nicolas Autier et Marie-Geoffrey Roustide. Alors nous venons de faire un tour d'horizon des usages médical du cannabis à l'étranger. En France, c'est une première institutionnelle. Depuis plus d'un an, l'ANSM, l'Agence Nationale du Médicament, pilote une expérimentation du cannabis à usage médical. Nicolas Autier, vous, en tant que président du comité scientifique de l'ANSM, sur cette expérimentation, vous êtes au cœur du sujet. Quelles ont été les étapes clés de la mise en œuvre d'une telle expérimentation?
La première étape, elle a commencé en 2018, dans un contexte où on voyait se développer en France de nombreux commerces proposant des produits à base de cannabidiol, de CBD. Certains appelaient du cannabis légal ou du cannabis light, parce que ce sont des variétés qui contiennent très peu de THC. Et en fait, c'est un marché qui s'est mis en place progressivement, sans trop de réglementation, sans trop de régulation. Et le ministère de la Santé, à l'époque, c'était Agnès Buzyn, en accord avec l'Agence du médicament, a demandé à ce qu'il y ait une réflexion officielle qui se porte sur ce sujet, de l'usage plutôt à visée thérapeutique du cannabis. Et l'Agence du médicament a donc proposé la création d'un premier comité scientifique en septembre 2018. Et ce comité a dit, après audition de nombreuses parties prenantes, d'experts étrangers, études de la littérature scientifique, ce comité a dit oui, il est pertinent de donner accès, dans certaines indications très précises, à des produits à base de cannabis, qui auraient un statut à terme de médicament, pour certains patients. Et puis dans un second temps, elle a dit, et pour mettre en place cela, puisqu'il y a beaucoup d'étapes à franchir, on va commencer par une expérimentation, qui est une expérimentation de politique publique. Donc ce n'est pas un essai clinique qui vise à démontrer l'efficacité. C'est une expérimentation de politique publique, comme il est prévu dans la Constitution, et qui permet de tester un dispositif, et surtout de prendre le temps de réfléchir à comment on va faire. Parce qu'en claquant des doigts, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de points législatifs à régler. Pour l'instant, c'est interdit, le cannabis en France. Et même actuellement, il est toujours interdit. En dehors de l'expérimentation, il l'est toujours. Et donc, il va falloir savoir comment ces médicaments peuvent avoir un statut.
Et d'ailleurs, l'ANSM a obtenu une dérogation pour son emploi dans ce cadre-là.
C'est ça, c'est pour ça que c'est une expérimentation. Ce n'est pas une légalisation, mais c'est censé en préparer une, normalement.
Mais alors, cette expérimentation, vous dites, voilà, ce n'est pas un essai clinique, mais comment se déroule-t-elle et puis quel est l'objectif de cette expérimentation, plus précisément?
Alors, elle se déroule auprès de patients qui ont 5 pathologies. Des patients qui ont des symptômes liés au cancer ou au traitement du cancer, qui sont réfractaires à leur traitement, souvent la douleur. Des patients qui sont en situation palliative, souvent liés au cancer, mais pas toujours. Des patients qui ont des scléroses en plaques, par exemple, et qui ont des douleurs musculaires importantes, ce qu'on appelle la spasticité. Des patients qui ont des douleurs qu'on appelle neuropathiques, qui sont des douleurs qui se traduisent par des décharges électriques, des coups de poignard dans les membres, par exemple, ou dans des zones qui ont été opérés. Et puis, ça concerne aussi des patients qui ont des épilepsies qui résistent aux médicaments. Et ces 5 indications, dans des situations réfractaires, quand les médicaments ne marchent plus, il y a une souffrance chronique majeure et on va pouvoir proposer une alternative et voir si elle fonctionne. On propose des huiles, notamment, à prendre par la bouche, des extraits de fleurs qui contiennent beaucoup de THC, beaucoup de CBD ou un mélange des deux. On propose parfois des fleurs à vaporiser. Donc, ce n'est pas des joints, on vaporise, on inhale. C'est une forme de vapote, mais c'est dans des dispositifs spécifiques. On ne chauffe pas trop pour qu'il n'y ait pas de combustion, pour pas qu'il y ait le risque de la combustion. Et tous ces médicaments-là sont prescrits dans des services hospitaliers, plus de 200 services hospitaliers sur toute la France, métropole et outre-mer. Et pour l'instant, on a pu traiter 2200 patients. Voilà.
Maria Geoffrey-Roustide.
Oui, juste un point important que vient d'évoquer Nicolas Autier, c'est que cette expérimentation, elle ne vise pas à mesurer l'efficacité parce qu'elle a déjà été mesurée, l'efficacité. Et en fait, le problème qu'on a en France, sur cette expérimentation comme sur d'autres, c'est que souvent le gouvernement considère que, même si ça a été prouvé ailleurs, l'efficacité, il faut retester des choses toujours en France. Donc là, on est plutôt sur effectivement l'accompagnement, l'organisation du dispositif. Il y a un autre élément, moi je trouve qu'il est important à préciser, c'est la question de des conditions de sécurité dans lesquelles les personnes vont pouvoir avoir accès à ce cannabis médical. Nous, ce qu'on a entendu dans la première phase que vient de décrire la Nicolas Autier, qui s'était mise en place à partir de 2018, c'est vraiment des patients en grande souffrance, en échec thérapeutique, qui étaient obligés, comme je disais tout à l'heure, de consommer du cannabis par la voie fumée la plupart du temps, de mauvaise qualité, qui s'exposaient à des risques et qui, grâce à cette expérimentation, vont pouvoir avoir accès à un médicament efficace qui va venir soulager ces douleurs sans avoir, par exemple, un risque de cancer du poumon lié à la combustion et au mélange du cannabis avec du tabac.
Mais ces traitements s'adressent donc bien à des malades pour lesquels la médecine est en échec thérapeutique dans 5 situations cliniques. Alors pour le reportage du jour, nous sommes partis à la rencontre d'un des chercheurs qui travaille sur cette expérimentation pour voir de plus près l'une de ces 5 indications. Et c'est avec vous, Garance Prema-Agnolo. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Et vous nous emmenez aujourd'hui à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne.
Oui, j'ai rencontré le docteur Didier Bouassira. Il est neurologue et spécialiste de la douleur et il participe à l'expérimentation française de l'ANSM depuis ses débuts. Cette étude était très attendue par les patients qui sont sélectionnés selon des critères d'inclusion et d'exclusion stricts. En ce qui concerne le service d'Ambroise Paré, il s'agit de patients souffrant soit de douleurs neuropathiques sévères, c'est-à-dire des douleurs d'au moins 4 sur 10, soit de douleurs dites réfractaires, autrement dit des douleurs qui n'ont pas répondu aux autres traitements.
Il s'agit d'une expérimentation et non pas d'une étude clinique, d'un essai clinique dans lequel on essaierait de montrer l'efficacité du cannabis par rapport à quelque chose, soit un placebo, soit par rapport à un autre traitement. Il s'agit vraiment d'une étude de faisabilité, de la mise en place de ce traitement en France. Donc il n'y a pas du tout d'objectif d'efficacité. Et même si beaucoup de patients sont contents, sont heureux du traitement, ça vaut mieux, ils l'ont bien toléré, etc., on ne pourra pas dire si c'est un effet vraiment spécifique ou si c'est un effet un peu placebo parce qu'ils étaient contents de participer à l'étude, parce qu'ils attendaient le produit depuis longtemps. Et donc il y a beaucoup de biais dans le recrutement. Donc voilà, on ne pourra pas conclure sur l'efficacité, mais en tous les cas, on pourra conclure sur la tolérance. C'est-à-dire, si les produits sont mal tolérés, on le saura. S'il y a 80% des patients qui n'arrivent pas à suivre le traitement à cause d'effets secondaires, on le saura très rapidement. Ce qui n'est pas le cas, on sait déjà que ce n'est pas le cas.
Ça allait justement être ma question. Est-ce que vous avez eu des retours d'effets secondaires graves ou pas de la part des patients?
Oui, enfin, il y a eu des effets secondaires qui étaient des effets secondaires attendus. C'est principalement des phénomènes de somnolence, de vertige, de fatigue. Il y a parfois des choses un peu plus gênantes sur le plan cardiaque. En plus, il y a des diarrhées, souvent une patiente qui arrête à cause de diarrhées. Parmi mes patients, j'ai à peu près 30% des patients qui ont arrêté, soit à cause d'inefficacité, soit à cause d'effets secondaires. Autour de 60-70% de patients qui ont répondu. Quand je dis réponse positive, c'est pas 100% de disparition de la douleur. C'est une amélioration de la douleur. Mais comme je l'indiquais précédemment, ces patients ont souvent pas répondu, ont été réfractaires, comme on dit, à d'autres traitements. Et donc, voilà, si on obtient 30%, 40%, voire 50% d'amélioration, c'est déjà énorme. Donc on est très content. Et les patients surtout sont très contents. Mais encore une fois, on est sur une population qui est tout à fait spéciale, des patients qui ont décidé de participer, qui ont choisi de participer à cette étude, qui l'attendaient depuis longtemps, etc. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on puisse généraliser ce pourcentage à l'ensemble de la population des douleurs chroniques. Mais néanmoins, c'est quand même encourageant.
Et quelles sont du coup les différentes formes de cannabis thérapeutique utilisées dans cette expérimentation?
On utilise de différentes concentrations, on va dire, des deux principales molécules qui sont présentes dans le cannabis, à savoir ce qu'on appelle le CBD, donc le cannabidiol, et le THC, le tétrahydrocannabinol. Donc on utilise différentes concentrations, alors soit 50-50, soit plus de CBD, soit plus de THC. On commence le plus souvent par le CBD, la forme prédominante en CBD. Et si ça ne fonctionne pas, on passe à des formes dites équilibrées, c'est-à-dire qu'il y a 50%-50% hein, CBD et THC. Et on peut être amené chez certains patients à aller vers du THC pur, en sachant que là, on a plus d'effets secondaires. Hein. Alors, sachant que c'est quand même un traitement un peu lourd pour les patients, hein, puisqu'ils doivent, la prescription doit être renouvelée tous les 28 jours sur une ordonnance spéciale, sécurisée. Et l'étude est censée durer 2 ans. Donc, pour ceux qui ont été inclus dès le début, ça peut faire un suivi de 2 ans à peu près.
Quels sont un peu les retours des patients vis-à-vis de ce traitement
Alors, c'est varié, hein, comme d'habitude. On ne s'attendait pas non plus à des résultats miraculeux. Hein. On a des patients qui sont très répondeurs, qui répondent très bien, qui sont très contents du traitement et qui le poursuivent depuis plusieurs mois. Il y en a d'autres, en revanche, qui n'ont pas continué, qui ont arrêté, soit pour des raisons d'effets secondaires, soit pour des raisons d'inefficacité ou parce qu'il y a des contraintes. Hein. Alors, j'ai mentionné les contraintes liées aux consultations fréquentes, mais il y a aussi une autre contrainte hein, qui n'est pas négligeable, c'est qu'on ne peut pas conduire hein, quand on participe à cette expérimentation.
Du coup, le cannabis thérapeutique peut être prescrit sous forme de sommité fleurie ou alors d'huile administrée par voie orale. Est-ce que la tolérance diffère en fonction de ces deux modes d'administration ?
Oui, enfin, on va dire que les fleurs séchées, hein, qu'on donne sous forme de vaporisation, donc les gens vapotent, hein, on leur donne un petit vapoteur et une balance hein, pour qu'ils puissent peser très précisément les fleurs qu'ils vont mettre dans le vapoteur. Donc là, l'intérêt de cette forme-là, c'est que ça agit plus vite. On est censé avoir des effets moins de 30 minutes après l'absorption. Et donc, on va privilégier ce type de forme donc, chez les patients qui ont des douleurs aiguës. On peut combiner d'ailleurs hein, les deux formes orales sous forme d'huile et ces formes sous forme de fleurs séchées chez les patients qui ont des douleurs continues plus des pics de douleur.
Du coup, quelles sont les perspectives de cette expérimentation selon vous ?
Bah, y a des chances qu'on ait une généralisation de la prescription et qu'on aille vers une certaine forme de libéralisation, au moins de la prescription du cannabis thérapeutique, hein, dans le cadre thérapeutique très strict. Je pense qu'on n'aura pas non plus des réponses précises concernant les patients qui sont susceptibles de répondre à ce traitement le mieux. Parce que même au sein des douleurs neuropathiques, comme je vous l'indiquais, tous les patients ne répondent pas, loin de là. Donc on a besoin d'avoir des critères plus précis pour identifier les patients susceptibles de répondre. En revanche, je pense que ça va donner des idées pour faire d'autres études de recherche pour aller plus loin dans la connaissance de l'utilisation de ces produits et notamment leurs indications préférentielles pour traiter les patients.
En tout cas, il fera partie
voilà, de l'arsenal. Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, il fasse partie de l'arsenal puisqu'on est sûr qu'un certain nombre de patients peuvent en bénéficier. Ça serait dommage de s'en priver.
Merci Garance Préma Agnolo pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Giovanni Marsicano ?
Oui, c'est très intéressant. J'aimerais savoir les dosages qui viennent utilisés, parce que je pense que la dose, comme disait Nicolas avant, c'est très important.
Et le poison, c'est le dosage, ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui. Et dans le cas du THC, du cannabis, les rapports dose-réponse sont un peu différents des médicaments normaux. Dans le sens que, si j'ai 2 secondes pour l'expliquer, normalement, les médicaments, ils ont une dose-réponse linéaire ou directe. Ça veut dire que une dose faible, il n'y a pas d'effet. Après, commence un effet. L'effet devient de plus en plus fort, plus on augmente la dose. Avec le THC, très souvent, on le voit très, très bien au niveau d'expérimentation sur les animaux, mais on le connaît aussi dans l'homme. C'est la dose réponse est, on dit, biphasique. Ça veut dire qu'à faible dose, on peut avoir un effet, après on augmente la dose, l'effet disparaît, et à dose plus forte, on a l'effet contraire. Ça, c'est une chose qui se passe très clairement dans les animaux, et on commence à comprendre parce que c'est l'activation des différentes cellules dans le cerveau. Mais je pense que c'est très intéressant le fait que les patients, ils peuvent choisir, arriver à trouver leur propre dose.
Oui, c'est sur cet effet biphasique, hein, le cannabis est une arme à double tranchant. Peut-être pour répondre à la question de Giovanni Marsicano, Nicolas Autier, sur les dosages justement de cette expérimentation.
Oui, mais justement, on pratique ce qu'on appelle une titration. C'est la même chose que ce que l'on fait lorsque l'on prescrit de la morphine, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance quelle va être la posologie efficace et bien tolérée. Et donc, on va commencer à une petite posologie, et puis on va augmenter progressivement sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Parfois, pour adapter une thérapeutique, il nous faut 6 à 8 semaines pour un patient pour trouver le bon dosage, c'est-à-dire celui qui est efficace et bien toléré. Donc ça nous permet de, normalement, d'éviter de tomber dans cette phase, dans le creux, en tout cas entre ces deux vagues, enfin, cette phase d'efficacité, puis ce creux d'inefficacité, et cette nouvelle vague qui serait plutôt d'effet indésirable. Normalement, on est censé s'arrêter au moment où on a un effet thérapeutique et une absence d'effet indésirable. Donc la titration, aussi bien en CBD ou en THC, ou les deux en même temps, permet d'éviter ce phénomène-là. Et puis c'est vrai que les posologies auxquelles on travaille ne sont pas les posologies où on souhaite induire un effet psychoactif très puissant. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que l'effet psychoactif, il peut être thérapeutique. Il faut le dire. Je pense que quand on prend de la morphine, il y a un effet psychoactif et on est content de l'avoir. Hein. Et pas que pour la morphine. Prenons le tramadol, qui est le plus consommé des médicaments opioïdes. Plus de 6 millions de Français. Et croyez bien qu'il y a un effet psychoactif et il peut être thérapeutique. Mais il est beaucoup plus faible que celui que l'on recherche lorsqu'on a un effet dans un contexte plutôt festif, où on souhaite vraiment qu'il y ait un impact psychique plus important.
Marie-Geoffrey Roustide.
Oui, je voulais juste réagir sur ces questions de récréatif, festif, thérapeutique, médical. Dans le cadre des usages, en tout cas, dits récréatifs, il y a des usages thérapeutiques. Hein, dans les enquêtes qui sont menées auprès des jeunes, par exemple, qui consomment du cannabis, un des premiers motifs qui arrive dans les réponses, c'est le fait de prendre du cannabis pour mieux dormir, le fait de prendre du cannabis pour être moins anxieux. Donc en fait, cette frontière entre drogue et médicaments et entre thérapeutique et récréatif, elle est très floue.
Oui, sociologiquement, c'est intéressant.
Oui. Beaucoup de consommateurs de cannabis sont classés dans récréatif et en réalité, ils ont un usage autothérapeutique. Mm.
Alors là, dans cette expérimentation, et puis ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage, hein, on a entendu une des 5 indications, il y en a 4 autres, il n'y a pas que les neuropathies, mais pourquoi ça ne s'adresse pas à tout le monde, cette expérimentation, Nicolas Autier ?
C'est-à-dire tout le monde à 70 millions de Français, c'est ça ? Vous voulez ?
Non mais comment justement ces 5 indications ont été
définies ? Beaucoup, il y a peu de médicaments qui traitent comme ça plusieurs pathologies. En réalité, sur ces 5 indications, il y en a 4 où la douleur est prédominante. Et puis il y a l'épilepsie qui est un peu à part. L'épilepsie se traite uniquement avec des médicaments à base de CBD. Il n'y a pas de THC pour traiter l'épilepsie. Mais pourquoi ces 5 et pas d'autres ? Eh bien parce que pour l'instant, scientifiquement, on n'a pas de preuve comme quoi les médicaments à base de cannabis, ces produits à base de cannabis, et notamment de THC et de CBD, pourraient avoir un effet, même s'il y a des retours d'expérience de patients parfois intéressants. Hein. Mais je dis scientifiquement, on n'a pas de preuves suffisantes pour pouvoir dire on peut généraliser cette prescription. Donc comme pour tout médicament, hein, il n'y a pas de raison que ça soit différent d'un autre, eh bien, on attend d'avoir des preuves suffisantes pour pouvoir dire peut-être que ça permettra de traiter certains troubles anxieux, peut-être, certaines maladies inflammatoires, etc. Mais pour l'instant, on a du retour d'expérience de patients, mais la science n'arrive pas à confirmer cet effet-là, notamment lorsque l'on compare versus un placebo.
C'est-à-dire que, pour résumer, ce sont des traitements dits de troisième ou de dernière intention. Le niveau de preuve scientifique qui existe n'est pas suffisant pour être utilisé en première intention.
Oui, parce que voilà, c'est ça. On ne peut pas élargir pour l'instant à trop d'indications, mais surtout, pourquoi c'est en dernière intention ? C'est parce que les preuves, elles restent modestes. Alors, c'est là-dessus que souvent la procédure est un peu critiquée, en nous disant les preuves ne sont pas suffisantes. Mais elles ne sont pas suffisantes, c'est sûr, pour mettre ces médicaments en première intention, à la place de, je sais pas, des antiépileptiques ou des antidépresseurs dans le traitement de la douleur neuropathique ou de la morphine dans la douleur du cancer. Bien sûr. Mais il existe des niveaux de preuves. Vous imaginez bien que l'Agence du médicament et les ministères de la Santé et ses deux ministres précédents ne se sont pas engagés dans une expérimentation s'il n'y avait pas scientifiquement des preuves. D'accord ? Quoi que certains puissent dire. Donc elles sont modestes. mais elles existent. Et probablement qu'il ne faut pas falloir se contenter de ça. Et il faut aussi associer à cet accès à ces produits plus de travaux de recherche pour mieux savoir comment ça fonctionne, pour mieux savoir chez qui ça fonctionne, chez quel patient. Didier Boissira l'a dit, ça ne marche pas chez tout le monde. Il y a certains qui répondent, d'autres qui ne répondent pas à ces traitements. Et donc, on a envie d'en savoir plus. Donc, on peut commencer à donner accès, mais en parallèle, il faut qu'on s'engage, il faut qu'on trouve des financements, parce que la recherche, c'est de l'argent toujours, pour aller plus loin dans la recherche.
Oui, vous dites, vous avez dit ce nombre, hein, cela pourrait concerner 70 000 Français.
Non. Ça peut concerner plusieurs dizaines de milliers de Français.
Oui.
Alors, peut-être, ça peut aller jusqu'à 300 000 potentiellement, mais en réalité, ça ne marchera pas chez ces 300 000 Français. Donc, en Allemagne, où ils ont donné accès au cannabis médical depuis 2017, sans aucune liste d'indications d'ailleurs, vous avez environ 100 000 Allemands traités. 100 000, hein, donc un pays à peu près comparable au nôtre. Donc, il ne faut pas s'attendre à des millions ou à des centaines de milliers de Français qui vont être traités. Et peu importe, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que ça soit donné aux bonnes personnes. C'est quand même des médicaments, ce n'est pas anodin comme tout médicament. Et il faut faire attention. Et donc, il ne faut pas dire, on le donne et puis on voit ce qui se passe. Non, on ne fait pas ça avec un autre médicament. On ne va pas faire pareil avec le cannabis. À visée médicale. Et donc, on va traiter les gens parce qu'on a des preuves scientifiques et parce qu'on pourra le surveiller, parce que ça aura du sens. De toute façon, si ça n'a pas de sens, ce que l'on fait, les médecins ne prescriront pas ces médicaments.
Oui, et puis comme on le dit hein, depuis tout à l'heure, on parle de patients pour lesquels il n'y a pas d'alternative thérapeutique existante. Donc, il y a donc une dimension éthique.
Oui.
Marie-Geoffrey Roustide, sur cette dimension éthique, justement, de l'usage médical du cannabis.
Cette dimension éthique, on la voit par exemple sur la question des soins palliatifs. Hein, voilà, des patients qui souffrent beaucoup. Sur la question du cannabis, souvent on parle par exemple des effets sur la cognition à long terme. Ben là, la question, elle se pose pas. Il s'agit de pouvoir soulager une souffrance qui n'est pas soulagée par d'autres médicaments. Donc en fait, c'est vrai que c'est difficile à comprendre qu'en France aujourd'hui, on ait un gouvernement qui hésite encore pour ce type de situation, par exemple, alors que c'est mis en place dans d'autres pays. Et c'est vrai que, voilà, quand on a entendu tous ces témoignages lors de la première phase de l'expérimentation, on avait vraiment des patients qui étaient en souffrance et qui, voilà, et ça c'est des questions éthiques, pouvoir être à l'écoute de la souffrance des patients et de patients qui nous disaient être soulagés par les effets du cannabis.
Alors ce gouvernement, en fin septembre cette année, le rapport d'évaluation de l'expérimentation a été remis aux parlementaires. Nicolas Autier, qu'est-ce qui ressort de ce rapport ?
Je ne suis pas parlementaire moi, alors c'est difficile de vous dire...
Quels sont les résultats ?
Du coup, j'ai interrogé des parlementaires. ce rapport, il est favorable, c'est-à-dire qu'il est positif, on va dire, sur plusieurs points. D'abord, sur le plan des effets indésirables, ça a été évoqué par aussi Didier Boissira, il y a des effets indésirables, mais il y a plutôt peu d'effets indésirables graves, et tous ceux qu'on a observés sont des effets indésirables connus. Somnolence, fatigue, palpitations, anxiété, troubles digestifs, pour la majorité d'entre eux. Donc rien d'exceptionnel. Il faut dire que le cannabis, on le connaît bien. Hein, et il y a des posologies bien plus importantes en termes d'exposition. Donc rien de nouveau sur les effets indésirables. Plutôt rassurant. L'accès à ce traitement par l'intermédiaire des services hospitaliers, qui en Suisse doivent passer le relais aux médecins généralistes, le dispositif est plutôt fonctionnel, à la limite qu'on a encore un peu de mal pour l'instant à, embarquer avec nous nos collègues médecins généralistes. Donc on a cette limite-là pour l'instant sur les relais de l'hôpital vers la ville, mais le rapport dit que ça a fonctionné. Et puis enfin, on a interrogé les patients, et les patients sont dans deux tiers des cas extrêmement satisfaits d'avoir pu avoir ces produits. Deux tiers d'entre eux rapportent une amélioration de la qualité de vie. Et puis ensuite, on a quelques données scientifiques sur les différentes indications. Pour ce qui concerne la douleur que je connais mieux, effectivement, on a ce que disait Didier Boissira, lui aussi dans son expérience personnelle, dans son centre, on a quand même parfois à la moitié, à deux tiers des patients qui rapportent une amélioration de leur qualité de vie. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces médicaments à base de cannabis, et le cannabis en général, c'est peut-être pas un très bon antalgique. C'est pas un antalgique, un antidouleur révolutionnaire. On a fait plus efficace. Mais en revanche, de par la multiplicité de ses actions, c'est parfois un bon traitement du patient qui souffre de douleur. C'est-à-dire que on s'intéresse à sa douleur, mais on s'intéresse à son stress, son anxiété, son sommeil, son humeur, etc. Et dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Donc c'est peut-être pas un bon antidouleur, mais c'est parfois un bon traitement du patient qui souffre de douleur.
« l'école, princesse.
T'as quel âge?
Qu'est-ce que ça peut te faire?
Tu veux un cachou?
Non, merci. Je ne suis pas très pauvre. J'ai fumé du pot. C'est marrant, mais ça rend pas causant. C'est comme l'op, tu sais.
Non, je sais pas.
J'ai tâté du kiff aussi. Bof. Il y a toujours ces hippies. Je dors pas. Ils sont là à traîner, ils sentent vraiment mauvais. Moi, je vis dans un monde vert et mauve toute la journée. Quand j'ouvre les yeux, c'est...
Tu veux un cachou?
Non, merci. Je ne suis pas très drogue. Avec mon chien Otis, je le sors le matin, on vole tous les deux jusqu'à la plage, c'est super beau. Je reste assise sur le sable une heure ou deux avec tous mes copains, ceux dans ma tête et ceux de la plage. De temps en temps, on branche un tourne-disque, et là sur la plage, on danse. On danse le jerk, tu sais, le jerk dans la lumière, jusqu'au petit matin et les couleurs explosent. Non merci, je ne suis pas très drogue.
The Liminianas, je ne suis pas très drogue, à 16h41 sur France Culture, car nous parlons de cannabis médical avec nos trois invités du jour. Giovanni Marsicano, directeur de l'équipe endocannabinoïde et neuroadaptation au neurocentre Magendy, avec Nicolas Autier, chef de service de médecine de la douleur au CHU de Clermont-Ferrand et président du comité scientifique de l'ANSM sur l'expérimentation du cannabis à usage médical en France, et avec Marie-Geoffrey Roustide, sociologue et chercheuse au centre d'études des mouvements sociaux à l'INSERM, qui coordonne le programme Sciences sociales, drogue et société à l'EHESS. Alors, nous venons de parler de cette expérimentation en cours en France, de la balance bénéfice-risque. À présent, parlons de ce que nous savons des effets du cannabis sur le cerveau. Giovanni Marsicano, vous travaillez sur le système cannabinoïde depuis 25 ans. Est-ce que pour nous, qui ne sommes pas neurologues, vous pouvez nous raconter quels sont les effets neurologiques de la prise de cannabis?
Bon, il y en a plusieurs et plutôt compliqués en général. Si on parle du THC, que c'est la composante la mieux connue, le CBD c'est beaucoup plus mystérieux. Le THC, il agit surtout en activant ce qu'on appelle un récepteur. Un récepteur, c'est une protéine, une molécule qui agit comme qui est comme une serrure, et le THC c'est comme la clé qui ouvre cette serrure. Et ces récepteurs, ils sont sur les cellules ou dans les cellules. Et quand le THC arrive, active le récepteur, et le récepteur transmet un effet à l'intérieur de la cellule, et il dit à la cellule fais ça ou fais ça. Et la chose intéressante, c'est que CB1, qui est le nom de cet récepteur, c'est Cannabinoid Receptor Type 1 en anglais, CB1, c'est un des récepteurs les plus exprimés dans le cerveau. Il y en a vraiment des quantités énormes. Et il est exprimé sur des cellules différentes du cerveau. Vous savez, le cerveau, c'est bien sûr l'organe le plus compliqué, le plus complexe de notre corps. Et les cellules, le type de cellules qu'il y a dans le cerveau sont dans l'ordre des millions. On continue à en découvrir de nouveaux. Et l'effet que CB1, il est présent sur différents types de cellules, son activation donne des effets différents selon le type de cellule qui est activé. Comme je disais avant, par exemple, cet effet biphasique qu'on disait avant, on s'est aperçu que ça dépend du fait que certains récepteurs ils sont plus sensibles et sont activés avec des doses plus faibles, mais quand la dose augmente, il y a un autre récepteur qui c'est toujours le même, mais c'est sur une autre population de neurones ou de cellules, et là fait un effet différent ou contraire. Et c'est pour ça que, comme on disait, il y a la double facette des cannabinoïdes, du cannabis. Et je pense que c'est très bien de garder séparé la discussion sur la récréative ou thérapeutique. Parce que s'il n'y a pas un contrôle médical, le cannabis, il n'est pas de l'eau. C'est vrai que c'est par rapport à les opioïdes, aux autres médicaments, il peut être moins dangereux pour la vie, mais il peut donner des effets négatifs, surtout sur les jeunes, sur l'adolescente, sur les adolescents et tout ça. Comme ça, un contrôle médical, je pense que c'est la chose meilleure pour garder les effets thérapeutiques et éviter des effets négatifs.
Oui, c'est-à-dire que là, on sait que le THC et le CBD se fixent sur les récepteurs cannabinoïdes de notre corps. La recherche sur le fonctionnement du cannabis et du système cannabinoïde endogène, on n'en est qu'à des balbutiements. Hein, pour quelles raisons ?
On dit que dès quand j'ai commencé, on a beaucoup avancé. On sait vraiment maintenant des choses qu'on n'imaginait pas, même pas avant. Et c'est vrai que c'est, comme je disais, c'est un système très compliqué. Et l'effet qu'il y a, le récepteur il peut agir sur un type de cellule ou l'autre, si on n'a pas les outils, pour disséquer un peu les effets, on risque d'être confus. Parce que des fois, on a des effets, des fois, on a les effets contraires et on n'y comprend rien. Je peux imaginer, dans les années 80 et 90, les chercheurs peuvent être vraiment très, très, très confus par ces effets-là qui sont particuliers, ne sont pas dans la pharmacologie normale.
Nicolas Autier, hein, pour compléter justement sur ce qu'on sait des effets du cannabis sur le cerveau.
Oui, alors, effectivement, c'est assez complexe. Et le CBD, c'est encore plus complexe que le THC. Comme on l'a dit, effectivement, on dit le cannabis, mais en fait, ce n'est pas le cannabis, c'est les substances du cannabis. Et là, on parle du THC et du CBD, et il y en a 400 ou 500 autres substances. Donc, on parle que de deux substances qui sont majoritaires en quantité, mais est-ce que c'est les plus efficaces et les plus intéressantes ? On ne le sait pas totalement. Le CBD, on sait qu'il s'accroche essentiellement à d'autres récepteurs que ceux du système endocannabinoïde. Sérotonine, tout ce qui est excitateur, tout ce qui est plein de choses. Et donc, il y a des dizaines de récepteurs différents, de systèmes différents, mais ce n'est pas parce qu'une substance s'accroche à un récepteur qu'elle aura forcément un intérêt en thérapeutique. Et très souvent, dans le milieu du cannabis, on fait des raccourcis. On dit, tiens, on a observé que ça s'accrochait à un récepteur, donc comme ce récepteur est impliqué dans telle pathologie, eh bien, il y aura un intérêt thérapeutique. Ça serait bien, mais si on faisait ça, on découvrirait toutes les semaines des nouveaux médicaments. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Et on voit qu'on n'arrive pas toujours à extrapoler ce qu'on observe chez l'animal à l'homme non plus. Donc, c'est une pharmacologie complexe. On administre souvent des mélanges de substances. Donc, ce sont des médicaments complexes. Et donc, on imagine bien qu'on ne maîtrise pas tout à fait tout en termes de comment ça fonctionne.
Oui, c'est certain que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si c'est la plante elle-même, avec toute la complexité de molécules qu'elle contient, qui a un effet, une efficacité thérapeutique.
On appelle l'effet d'entourage, en fait.
Oui, voilà.
Et les fameux effets d'entourage, en disant qu'il faut administrer toutes les substances ensemble, parce que c'est le totem de la plante qui est efficace, plus que les substances prises isolément. En réalité, c'est très, très peu ou très... quasiment pas démontré scientifiquement, ça. Mais c'est la base de ce qu'on appelle la phytothérapie.
Mais alors, dans l'ensemble, ça veut dire que les patients ont quand même besoin que la recherche progresse sur ces questions.
Bien sûr, il faut faire progresser la recherche.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
h 48 sur France Culture, nous parlons de chanvre médicale avec nos trois invités du jour, Giovanni Marsicano, Nicolas Autier et Marie-Geoffrey Roustide. Alors cette émission commence à arriver à sa fin. En mars 2023, l'expérimentation du cannabis médical en France va lui aussi toucher à sa fin. Nicolas Autier, est-ce qu'on serait en route vers la généralisation ? Qu'est-ce qui va se passer ? La suite, c'est quoi ?
Je peux vous le dire parce qu'il y a une dépêche qui a été publiée aujourd'hui dans l'agence de presse médicale. Donc ce n'est plus un secret. Effectivement, cette expérimentation va être prolongée d'un an. Ça va être confirmé dans la loi de financement de la sécurité sociale qui est en train d'être discutée au Sénat puis qui va revenir à l'Assemblée nationale bientôt. Elle va être prolongée d'un an. Et donc, c'est-à-dire jusqu'en mars 2024. On va pouvoir continuer d'inclure des patients, des nouveaux patients, j'espère. Et ça va permettre, en fait, aux autorités d'avancer et d'amener des solutions concernant plusieurs problèmes, notamment la question du statut. Il faut que ces produits au standard pharmaceutique deviennent des médicaments. Donc, soit on les fait rentrer dans un statut existant, soit on leur crée un statut ad hoc. Ce n'est pas encore arbitré pour l'instant. Il va falloir se poser la question de savoir si ces médicaments sont pris en charge par l'assurance maladie, la question du remboursement. C'est important en France, la question du remboursement. Et pour l'instant, elle n'est pas arbitrée. Et pour l'instant, donc, tant que c'est pas arbitré, c'est compliqué de dire qu'on rentre dans le droit commun, puisque il faut que tout ça soit prévu. Pour ce qui le reste, ça fonctionne à peu près bien. Ce sera des médicaments qui seront primo-prescrits à l'hôpital, puis ensuite relayés en médecine de ville, dispensés en pharmacie. Donc on va avoir un an de plus. Ça fera 3 ans au lieu de 2 ans. Il faudra s'en contenter. Les patients, effectivement, sont pas toujours très satisfaits de ça, et je les comprends. Parce que l'accès restera encore un petit peu difficile du fait des contraintes de l'expérimentation. Mais j'espère que le gouvernement tiendra ses engagements et qu'en 2024, pour les patients, il permettra un accès via le droit commun à ces médicaments.
Marie-Geoffrey Roustide.
Oui, il y a la question des patients, effectivement, qui est au cœur de ce débat. Et les patients, effectivement, ils attendent depuis longtemps, alors qu'ils voient que autour de nous, c'est possible. Je voulais rebondir juste pour la fin sur la question des effets du cannabis. Donc, Giovanni Marsicano a tout à fait raison. Hein. Le cannabis a des effets négatifs, en particulier à certains moments de la vie, dans certains contextes. Mais en fait, les effets sont encore plus négatifs quand le produit est interdit. Et donc, en fait, on sait que dans les dangers du cannabis, il y a aussi la prohibition qui rend ce produit encore plus dangereux, parce qu'en fait, quand le produit est prohibé, il n'est pas contrôlé et les usagers sont stigmatisés. On n'a pas la possibilité non plus de faire de la prévention. Donc en fait, les données scientifiques dans le domaine de l'épidémiologie, de la sociologie et de la science politique ont bien documenté les effets très néfastes en fait de la prohibition sur la question de l'utilisation des substances. Donc je pense que c'est un point également important à rappeler.
Bon, on l'a dit tout au long de cette émission que c'était un sujet assez sensible, mais en termes d'acceptabilité en France à l'heure actuelle.
Alors l'acceptabilité sociale du cannabis médical, elle est très élevée puisque la dernière enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives a montré dans son enquête Europe de 2018 que 9 Français sur 10 étaient favorables au cannabis médical.
Et puis, on peut aussi dire qu'en parallèle, il y a un projet en France de développer une filière de production de cannabis médical. Merci à vous trois de nous avoir éclairés tout au long de cette heure sur ce sujet. Comme chaque jour, il est temps de retrouver Étienne Klein pour sa chronique « Le pourquoi du comment ».
Pourquoi l'origine de l'univers est-elle insaisissable ? Les récits ancestraux de la naissance de l'univers affirment d'emblée qu'au tout début, il y avait ceci ou bien cela. Ils imaginent le monde originaire déjà empli de quelque chose. Et ils ont l'embarras du choix. Divinité, océan plus ou moins tumultueux, matière informe, chaos originel, tohu-bohu, œuf primordial. Mais un début qui fait suite à quelque chose mérite-t-il vraiment qu'on l'appelle le début de l'univers ? À l'évidence, non. Car de deux choses l'une, ou bien cette chose qui existait déjà a toujours été présente, et l'univers lui-même n'a pas eu d'origine proprement dite, ou bien elle est elle-même la suite ou la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée, et alors elle n'est pas l'origine. Ainsi, le seul fait de désigner l'origine de l'univers de façon explicite contredit l'idée qu'il puisse y en avoir eu une. La nommer, la supprime. Il en va de même pour les scientifiques. À les écouter, on découvre qu'ils parlent de généalogie, de métamorphose, de structuration progressive, jamais de création ex nihilo. Les origines qu'ils entrevoient ainsi ne sont jamais que secondaires. Ce sont des commencements relatifs, eux-mêmes précédés par d'autres commencements. Finalement, à les écouter, commencer est toujours une façon d'en finir. Par exemple, lorsqu'ils racontent l'origine des atomes, ils expliquent ce qui s'est passé dans l'univers avant que les atomes soient là et qui a conduit à leur première apparition. Bref, ils font le récit de l'histoire qui les a précédés et dont les atomes sont la conclusion. Dès lors, décrire scientifiquement l'origine de l'univers devrait consister à raconter l'histoire qui l'a précédée et dont elle serait l'aboutissement. Ce qui reviendrait, là encore, à dire que ce que nous appelons l'origine de l'univers n'en est pas vraiment une, seulement une étape de son histoire. En définitive, l'origine de l'univers, si tant est qu'elle a eu lieu, n'a pu être qu'une origine absolue et non pas relative. Elle a dû correspondre à la plus radicale des transitions, celle par laquelle du non-être s'est transmuté en être. Une telle transition est-elle vraiment à la portée de notre intellect ? Et comment savoir si un tel événement a effectivement eu lieu ? Si je pose ces questions, c'est simplement pour rappeler que nous avons tendance à parler de l'origine de l'univers avec une certaine désinvolture langagière. Or, prendre cette question au sérieux ne consiste pas seulement à tenter de décrire les phases les plus anciennes de notre univers, ce que les physiciens font d'ailleurs de mieux en mieux, c'est d'abord et surtout interroger la transition qu'elle suppose entre l'absence de toute chose et la présence d'au moins une première chose. C'est donc affronter directement le mystère du néant et de ses métamorphoses possibles. Comment le néant, supposé avoir bel et bien existé avant l'univers, s'y est-il pris pour cesser d'être le néant ? Par quelle dynamique interne a-t-il pu se séparer de lui-même ? Bien sûr, si on croit que le néant n'existe pas, n'a même jamais existé, autrement dit, si l'on croit qu'il y a toujours eu quelque chose, de telles questions n'ont pas le moindre sens. L'univers n'a alors pas connu de commencement. Mais si commencement il a eu, il n'a pu s'agir que d'un commencement pur, d'un commencement que rien n'a précédé. Mais le paradoxe d'un tel commencement, c'est qu'il se situe avant tout événement, là où et quand il n'y avait encore rien. Or là où et quand il n'y avait rien, comment peut-il se produire quelque chose, en l'occurrence un commencement ? Bien sûr, on a le droit d'imaginer que l'éventuel néant d'avant l'univers n'était pas seul, qu'il cohabitait avec autre chose que lui-même, par exemple avec quelques principes fondamentaux ou transcendants, ou avec les lois physiques supposées avoir existé avant l'univers lui-même. Le néant ainsi aidé aurait acquis le pouvoir de faire apparaître l'univers. Mais par quel mystérieux mécanisme ? Les théories physiques ne le précisent guère, pas plus d'ailleurs que les récits de la création. Au demeurant, un néant accompagné par autre chose que lui-même, mériterait-il encore d'être nommé néant ? Je veux dire, le néant peut-il exister autrement qu'en étant seul au monde ? Bon, ça se complique, alors je m'arrête, mais pas avant de vous dire que je vous laisse réfléchir à tout cela.
Merci Étienne Klein pour votre chronique et merci à toutes et tous d'avoir choisi France Culture pour vous informer. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Ève Etienne, Garance Préma-Agnolo, Natacha Demoule et Clémence Alézard. À la réalisation, Sam Bakiast, à la technique aujourd'hui, Alex Dang. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, et nous suivre sur Twitter, chiche, @sciencecqfd. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour, et souvenez-vous, rien n'est établi.
Vous aimez ce podcast ? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.